Bon, alors, je commence. Merci pour être là. Quand je crie dans la présentation l'incipit, le point de départ, c'était une phrase que je lis dans un texte, Density of Sound, the Sound of Density, an Experimental Approach, entre autres des auteurs, il y a Nicolas Rémy, qui on connaît bien au Cresson, qui, dans ce chapitre dédié à la densité du son dans la musique, il écrit, since we have mentioned a symphony orchestra, how about the concept of density in music? So, pour moi, c'était un peu un déclenchement, et donc j'essaye de proposer d'une façon un peu libre des écoutes de compositions, plutôt des extraits de compositions, parce que je n'ai pas le temps pour écouter complètement des compositions qui durent peut-être 10-15 minutes. En suivant d'un double fil, le fil densité, intensité, mixité, et un autre que je vais présenter. Alors, voilà. Moi, je l'ai appelé Let's Dance. Densité, entropie, composition. Comment les sons peuvent-ils habiter un espace? Donc, je peux renverser les thèmes de là. Voilà. Donc, il y a un triangle. Où il y a la densité. Et l'autre point de départ, c'est un texte que je venais d'avoir lu, A Brief New Theory of Sound and Music, Entropy, Order and Density. Donc le défi, c'était un peu le challenge, c'était un peu de mettre ensemble ces deux approches différentes, mais qui avaient quand même la densité comme tant que thème commun. Voilà, donc la densité, il est pas au centre, donc il faut... Pour faire ça. Après, on a les deux triangles. On les met ensemble. Et on a déjà fait des couples de thèmes. Voilà. Et donc là, j'essayais dans tout l'expo d'avoir cette rouge et verte dans les deux colonnes avec un passage, on peut dire, une démodulation entre densité, intensité, mixité et les parcours de l'autre côté, dans density, entropy and order. Ça, c'est ça. Donc, c'était mon premier draft conceptuel. À la maison, je mettais des papiers comme ça pour essayer de comprendre un peu comment je pouvais mélanger ces deux thèmes, ces deux pistes. Et donc, je commence par une écoute d'une pièce très brève, dont je vous demande d'être très concentré, c'est 27 secondes. Et je vous questionne maintenant, je vous pose la question, c'est quoi la densité de cette pièce? Il s'agit de la quatrième pièce de 5 pièces pour orchestre d'Anton Webern, 1911. Je crois que les 5 pièces durent 4 minutes tout l'ensemble, donc c'est vraiment des fragments très très courts. Celui-là, c'est 27 secondes, c'est un des plus courts, mais les autres, ils sont entre 30 secondes et 1 minute. Et là, il y a la partition, c'est bien visible. Alors, je propose un réécoute avec la partition. En tout cas, c'est 27 secondes. Donc, 1988, moi, avec une amie, on a réalisé des soirées, des après-midi avec des compositeurs. On avait invité Helmut Lachemann, qui avait présenté sa musique. Après, je vous présenterai aussi des petites pièces, des petits excerpts de musique de Lachemann. Et il a fait une conférence très intéressante Et j'étais frappé, à distance de beaucoup d'années, toujours dans ma tête, il a cette phrase. Donc il a fait une analyse de la même pièce. C'est bien lisible, les Français, là ?
Oui. Ouais,
ouais. Donc voilà, la version italienne est là. Je la lis et je fais des signes dans la partition qui correspondent. À la figuration initiale des six notes de la mandoline, A, correspondent à l'extrémité opposée la mélodie des cinq notes du violon, B. Entre celles-ci, une figuration des quatre notes de la trompette, C, est une locution de deux notes du trombone, D. Une locution mélodique d'une seule note se trouve au début dans l'alto, A. E. Les deux interventions de la clarinette, la note tenue relâchée en trille, lettre F, et les sons précédents répétés six fois, G. Cette échelle de rythmisation de son ténu, commencée par un instrument arché et poursuivi par deux variantes d'un instrument avant, se termine par un instrument à corps pensé, la mandoline, avec un son répété sept fois à la fin de la pièce lettre H. La harpe, avec ses cinq sons, suivie par la grosse caisse avec trois, lettre K, et enfin, non seulement la céleste avec ceux de deux secondes dans des intervalles dissonantes, mais la harpe avec un seul accord simplement pincé de trois notes, la lettre M. K s'en sert dans les contextes non seulement comme un élément rythmique, mais aussi comme un cas limite de bruit auquel se rattachent les secondes mineures de la céleste, L, le pizzicato de la harpe, I, et enfin la mandoline H. Et là, c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'épiphanie, la révélation de cette. Je peux couper, mais c'est une analyse très technique. Dans son ensemble, ces morceaux, c'est rien d'autre qu'une sérénade de son harmonique au clair de lune, avec un écho provenant des hauts où sont les belles trompettes, vous des schönen Trompetenblasen, c'est une pièce de Gustav Mahler, tirée par Des Knabel und der Horn, le corps magique de l'enfant, et les trombones, inquiétants, lui répondent jusqu'à ce que la tambour militaire, jouant la reculade, vienne troubler l'idylle. Alors l'amoureux se détourne, continuant à jouer de sa mandoline, tandis que son bien-aimé la salue d'un geste du violon. Donc j'ai bien aimé cette façon de voir une histoire, une narrativité, qu'à l'approche en pièce comme ça, on dit c'est quoi ça ? Mais quand même, il y a une histoire. c'est lui qui l'a trouvé, mais bien sûr, on peut la retrouver, nous. L'auditeur n'a pas le temps de se laisser aller à un tel idylle qu'on cela serait peut-être possible chez Mahler, dont je me suis inspiré pour choisir le vocabulaire de mon interprétation. Ce Mahler vu à travers des jumelles inversées, radicalement réduit à des signaux minimaux, donné comme un ballon dégonflé que c'est à nous que nous devons chacun gonfler par nous-mêmes. En ce sens, la musique de Webern est, en tant qu'expérience intérieure, aussi largement dimensionnée que l'univers symphonique de Mahler, c'est-à-dire c'est infini. Donc je vous propose de réécouter et de vous poser la question, est-ce que la densité c'est toujours la même ? Mahler, moi j'arrête un peu dans le milieu, disait « En symphonie doit être comme le monde, il doit tout contenir. » Et moi j'ajoute « Anton Weber, à mon avis, concentre dans une geste musicale tout un monde. » Donc là, je fais un peu de contemporanéité chronologique. 1911-13, Weber a composé les cinq pièces pour l'orchestre, donc ça a pris trois ans pour faire 4 minutes de musique. En même temps, dans la même année, 1911, c'était les dernières années de Mahler, Mahler révise la symphonie numéro 5 et travaille à la symphonie numéro 10, la dernière, qui est commencée en 1910, qui restera inachevée en raison de sa mort. Donc je vous propose, on a parlé de la musique de Mahler, donc je vous propose des fragments de la musique de Mahler, donc je vous propose le début de la première symphonie, Donc voilà le début. La fin de la 10e symphonie et le début de la 5e symphonie qui a été révisée les mêmes années de la 10e. Alors, premier moment de la première symphonie, lentement, entraînant toujours très tranquillement. C'est un fragment de 3 minutes 50 secondes. C'est pour moi, c'est vraiment l'origine du monde, c'est un paysage sonore avec des profondités, des oiseaux, où on peut écouter la tonnerre, l'orage qui arrive, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un peu une façon de description de l'origine, donc c'est la première symphonie, donc c'est le moment qui commence. Là, par contre, comme je disais, donc marche funèbre, un rythme duré, comme un cortège funèbre, donc c'est le début de la 5e, 1 minute 25 secondes, 5e de Mahler, toujours. J'ai trouvé les manuscrits, je trouve que c'est bien de voir la graphie. densité d'un point de vue acoustique, c'est beaucoup plus là. Il y a du bruit, il y a un gong, il y a un tambour militaire, il y a du rythme. Donc c'est vraiment fort. Mais en même temps, je me demande est-ce que la densité, la transparence d'une pièce très légère qu'on avance, il y a moins psychologiquement, peut-être qu'il y a aussi des densités. Donc ça peut s'interroger sur les termes intensité, densité, dans les points de vue de la perception, pas seulement de la psychoacoustique. Voilà, les finales, on a commencé avec la première symphonie, on termine avec la dixième. On verra quel est le draft, les brouillons de la partition, puisque Mal, il ne l'a pas terminé. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'orchestration. Finale, l'ensemble, lente, lourde. Pour revenir à elle, là, comment je me rappelle, je me souviens d'une phrase qui je cite par cœur, qui avait dit dans la conférence, elle a dit, je me promène dans une prairie, je pose les pieds sur un escargot. Le son que j'entends, c'est faible, presque inaudible. Mais dans la conscience d'avoir marché sur un vie et de l'avoir tué, le son devient fort, grand, intense. Alors, dico in italiano, cammino in un prato. Pesto una chiocciola, il suono è piccolo e minuscolo, però per me che so di aver ucciso un animale, il suono diventa forte, intenso e denso, quindi non è solo una questione di intensità. Voilà, donc pour parler de musique de Lachenmann, il y a une pièce qui s'appelle Pression, donc il vient dans les thèmes de l'intensité, pour violoncelle, 2 minutes 32, c'est le début de la pièce. je repropose presque la même partie, pour, soit pour écouter une version différente et pour voir qu'il est tout écrit. Donc il y a vraiment une écriture qui décrit exactement ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui écoutait avec les yeux fermés, mais c'est intéressant de voir comment la vision peut piloter l'écoute. Moi, j'ai trouvé une violence insupportable quelquefois de son comme ça. En plus, on pense à un violoncelle, il sent qu'on est en train de détruire les violoncelles, c'est pas vrai, mais quand même, bon, on voit les violoncelles, c'est différent. Donc, écouter, évidemment, il a inventé une écriture, parce que bon, elle n'existait pas. Bon, il a plein d'écritures contemporaines qui sont un peu, on dit interchangeable, mais quand même, il a créé et il travaille beaucoup avec l'instrumentiste de nécessité. Donc, Lacheman, il dit que sa musique, c'est de la musique concrète instrumentale. Donc, on a évoqué la musique concrète, Pierre Schaeffer, etc. Donc, l'idée, c'était enregistrer des sons, des pièces, prendre des pièces de son, enregistrer des bruits de son, n'importe, et les monter pour faire de la composition. Donc, pour lui, c'est la même chose avec les instruments. Moi, j'écoutais des pièces pour le camp d'orchestre où il n'y a pas un son normal. Et il y a des fois qu'on est dans une grande salle, 1000 personnes qui ne bougent pas pour qu'il y ait un violon qui fait comme ça. Et on écoute ce petit son du violon qui fait. Et là, évidemment, la visualité, c'est très important. Voilà, moi, je. Oui, donc avec Claude Cadoz, moi j'ai fait une thèse récemment ici à Grenoble, à un centre de polytechnique qui s'appelle Acroé, qui fait des recherches pour des synthèses des sons et images par modèle physique. Et on avait fait, moi je vais participer avec Claude Cadoz, qui est le fondateur et le directeur du centre, à un symposium à Rome. La nature des choses crée des sons et les composer grâce au modèle physique. Donc là, oui, moi je vais lire. La réalité de la musique n'est pas seulement dans les sons. Les phénomènes sonores qui se réalisent au moment du concert et les moments du concert lui-même ne sont qu'un point singulier dans un processus factif et cognitif complexe où intervient l'action gestuelle et corporelle, les perceptions auditives, visuelles, tactiles, proprioceptives, etc. Les vécus et l'expérience des musiciens et de l'auditeur. Les sons au moment du concert est autant un objet en soi qu'un moyen de représenter, évoquer, symboliser, métaphoriser et mettre en perspective cette expérience complète et complexe. Dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies, l'informatique, la synthèse pour la musique, le son, dès lors qu'il est artificiel, doit présenter un caractère d'authenticité important. Il doit pouvoir être perçu comme provenant d'une cause physique naturelle. Dans les corps du son, on doit pouvoir entendre et reconnaître la nature d'une cause. Enfin, ces objets permettent également de modéliser des phénomènes relevant d'une autre échelle, comme les phénomènes sociaux, à travers la notion même élémentaire d'interaction, d'inertie, de réactivité ou élasticité ou de viscosité. Dès lors, on se rend compte que le modèle physique et la modélisation de la cause sont utilisables non seulement pour la création du son, mais aussi pour la composition. Dans tous les cas, les phénomènes obtenus sont immédiatement expressifs, indépendamment de leur intérêt esthétique. Moi, je vais faire, dans le cas de la thèse, moi, j'ai essayé de faire, moi, j'écris la thèse en anglais, ici en France. Au début de la thèse, je vais essayer de faire cette « Definition of music in 36 words », que la traduction française, c'est la musique en 46 mois, parce qu'évidemment, la langue française, c'est un peu moins synthétique. Il n'y a pas de musique sans son et de silence. Il n'y a pas de son sans mouvement, énergie. Les mouvements peuvent être cycliques. Les mouvements cycliques peuvent être réguliers ou chaotiques. Les mouvements cycliques réguliers peuvent impliquer une grande complexité. Les mouvements chaotiques existent. Donc, il revient des thèmes de complexité, de chaos, d'ordre, désordre, qu'on retrouvera plus tard. Donc là, alors moi je vais maintenant rapidement un peu l'autre côté, les trois thèmes de texte de Luca. Et je le fais au contraire, puisque bon, dans les titres Entropie, Order, Density, donc je parle de le point 2, je reviens au point 1, pour aller dans la direction de densité vers l'entropie. Entropy is a knowledge as a fundamental. Pour l'anglais, c'est bien. Je lis l'anglais, mon prononciation, c'est pas parfait, mais quand même, vous pouvez lire. Is acknowledged as a fundamental law of nature since the origin of the universe. It seems natural to suppose that the human mind also originated in accordance with this law. Going back from 2 to 1. In a universe that naturally tends to disorder and noisy sound, the organized and complex spectrum of a tone is a rare phenomenon. The degree of complexity of any musical element may be defined by the combination of its density, level, and state, order or disorder. Dense disorder is noise, dense order is complexity. Amplitude is rarely considered as a type of density. Since sound naturally tend to dissipate acoustic energy into silence, high volume represents a high energetic state, while silence represents a lack of energy. Similarly to out, kinetic energy naturally tend to dissipate over time due to the friction, viscosity. Since entropy is the natural tendency creating complexity is difficult, and complexity is fragile. Entropy naturally tries to simplify complexity. Higher complexity level tend to dissipate into lower complexity level. Since entropy tends to maximize disorder within a closed system, when moving from state of order to one of disorder, the human perception sees natural processes in those transformations from organized to unorganized states. Musical cadences trigger the listener. Cognitive response is comparable to natural processes. Indeed, the term cadence, Latin from Latin cadentia, falling, may be argued to represent an expected development of natural consequence of a certain musical process. Transformation from organized to unorganized states may, therefore, give birth to cadential perception of phenomena. To finish, noise is an organized state, silence too. Noise and silence are equivalent. Repetition is a form of organization. So it's very dense, it's very synthetic, but I think it should be very interesting to approach with approach very center, avec une approche très analytique, très scientifique, des définitions qui sont cohérentes avec les thèmes. Donc, bon, là, je pars le temps de la répétition pour venir à une phrase d'Alfred Döblin sur la musique. La musique se présente en imitation, retour, 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 avec variation d'une seule et unique suite de sons. Et Varèse, Edgar Varèse, qui est bien connu pour avoir écrit la définition de composition musicale comme organized sound, ça vient de Varèse. Et là, une phrase qui est prise par son texte, les compositeurs et les électriciens peuvent être amenés à travailler ensemble. C'est un texte, j'ai trouvé dans un livre 1983, mais le texte date des années 20. Donc il est beaucoup plus long, plus vieux. Je préfère l'expression « son organisé » semble mieux souligner le double aspect de la musique, à la fois art et science, maintenant que les récentes découvertes en laboratoire permettent d'espérer une liberté inconditionnelle de la musique. Et voilà, donc il y a une pièce qui s'appelle « Density 21.5 » de Varèse, donc il me semble la bonne occasion pour les proposer. « Density », le titre vient de la densité de la flûte. Donc la flûte est faite par un métal à base d'or qui a une densité 21.5. Donc on peut un petit extrait 42 secondes de cette pièce pour flûte solo. 1936 et révisé 1946. Voilà, moi, je viens de paraître récemment un livre qui naît dans une conférence qu'on a fait en ligne il y a deux ans. Et je prends des extraits, donc « Goccia goccia, rituali di ascolto e pratica di composizione ». C'est un livre qui parlait de soundscape composition. Et plutôt, on est tombé pendant la pandémie, donc c'était un peu la demande, comme l'écoute peut être changé par la pandémie, donc les relations entre l'écoute, le soundscape et la pandémie, qu'on s'appelle le lockdown pandémique. Les sons sont liés au temps et à l'espace. Les salles de concert sont des instruments de musique qui incorporent des auditeurs qui, dans l'action active de l'écoute, sont les corps organiques résonnants de l'instrument. Tout auditeur actif participe, mais l'auditeur distrait et passif, en revanche, ne résonne pas, crée une viscosité ou une dissonance, devient un obstacle, étouffe, étend les sons, génère une pollution sonore. Le bon luthier sait où placer l'âme des instruments, où se trouve l'âme vibrante d'une salle de concert dans un concert live vivante. Concevoir un corps musical qui inclut les interprètes, la salle et les auditeurs fait appel à une phénoménologie de l'interprétation musicale que je comprends comme une posture écologique, l'unité de l'espace sonore, l'ambiance. Des interprétations musicales authentiques est une nécessité qui la rend assimilable à l'inévitable organicité de l'espace sonore des sons non organisés, des non-compositions, des sons naturels non musicaux, concrets. L'ici est maintenant d'un concert qui peut être réactivé mais non pas reproduit, cloné. Dans son authenticité, et l'ici est maintenant de chaque instant de notre vie, dans laquelle nous ne pouvons pas échapper à l'expérience de l'écoute et dans laquelle les sons sont naturellement présents, précisément parce qu'ils ne sont pas organisés et composés ad arte, dans une intention musicale, involontaire, inéluctable, spontanée. L'interprétation authentique d'un son musical artistique ou artificiel doit viser à être un son naturel, dans la mesure où il est capable d'activer une écoute naturelle. Où se trouve l'âme vibrante dans la lutherie des sons du monde? Et là, alors, moi je propose des écoutes d'un compositeur italien que j'ai connu, j'ai bien aimé, qui est mort en 1998. Inverno, inverno, c'est hiver en vérité, on peut traduire les titres, 11 poèmes musicaux pour petit orchestre. Voilà, déjà les titres sont intéressants. Et l'écriture, il écrivait à la main, il avait une écriture très infantile, c'était un peu particulier. Donc, Fleur des glaces, le ruisseau, la danse infernale, s'altérer, le sentence, la brine, c'est. Oula. Quand il y a le matin, il y a les glaces sur
le
givre. Il a les lacs glacés, petit Nenia prima, première lullaby, deuxième lullaby, silence, un vieil adagio, et le dernier c'est le rumeur, les bruits ne font pas du bien, le bien ne fait pas de bruit. Donc on écoute, et il y a cet arbre là dans la partition que je trouve, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais je trouve très, très, très intéressant et très cohérent avec l'éthique de musique. Alors le premier, le ruisseau. Silence. Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. à propos d'hiver, bon, bien sûr, un hiver bien, bien plus connu. Mais peut-être je me suis trompé quand je dis Castiglione, il est mort en 1198, je ne sais pas, je dis 88, mais 98. Et les mêmes années, il y a une version que j'aime beaucoup de Vivaldi, les quatre saisons, puisque c'est une version qui est vraiment faite avec l'esprit du son, vous écouterez un peu, qui est très, très, très proche, le goût du son qu'on écoutait d'impression dans la pièce. Donc il va traiter les instruments, bien sûr, pas de façon très extrême comme l'Achemann sur le violoncelle, mais quand même, il a le plaisir du son, du bruit, etc., dans les descriptives de l'hiver. Donc c'est presque la même durée, c'est 2 minutes 22 secondes. Classique, trois siècles avant, mais il y a le goût du son, la description du son, donc je trouve qu'il y a un esprit très proche. Et bon, voilà, un petit break. Pixar 1980, ça date très longtemps. Et je trouve, j'ai vraiment, j'étais dans l'idée, c'est physique. Et puis, là, c'était. À 91. Et voilà, voilà. Donc moi, on avait fait une conférence en ligne il y a 2-3 ans, c'était décembre, pandémie 1920. Et j'avais présenté, donc j'avais suivi un colloque à Cérésy sur le thème ambiance, et que c'était très nouveau pour moi. Et j'avais découvert qu'il y avait des mots, des termes, des idées qui revenaient très souvent, que c'était atmosphère, aura et stimmung. Et atmosphère, aura et stimmung sont trois masterpieces, trois chefs-d'œuvre de musique des années 60 environ. Donc j'avais, comment dire, j'avais essayé de faire une analyse descriptive, une description analytique que je vous propose. Alors je fais cet texte que vous lirez, vous pouvez lire en anglais, à l'écoute de la pièce complète. Là, j'ai choisi des fragments d'environ 2 minutes, mais la description, c'est la description complète, donc ça ne correspond pas. Ce n'est pas une analyse qui prétend d'être analytique, donc c'est plutôt quelque chose qui donne des suggestions pour l'écoute, que c'est les miens, mais c'est que peut être offert aux autres. Et des trois, donc les trois pièces qui sont Atmosphère de Gheorghe Ligeti, il a écrit peut-être, oui. Donc on commence pour les premiers 2 minutes.
Thank you.
Et là, je vous propose un fragment d'une pièce que je fais novembre. C'est une pièce qui était jouée dans le Centre d'Homme, la Royal Academy of Music de Copenhague, qui a 44 haut-parleurs. Donc là, j'essayais de faire réduction stéréo, qu'évidemment, je ne pouvais pas être là, donc je ne sais pas s'il marchait bien ou non, mais on dit oui. Mais donc, je fais une version binaurale pour le casque qu'on peut écouter pas mal. Et donc voilà, c'est Genesis, c'est bon, j'ai fait la grande majorité, j'ai fait plein de pièces avec ce logiciel de synthèse pour modèle physique développé ici à La Croix et à Grenoble. Genesis Sounds, Field Recording, and the old radio broadcaster dispersed around 44 loudspeakers. J'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc j'ai fait un mélange de mes pièces. Et j'expliquais, I don't like medley very much. And perhaps for this very reason, I threw myself the challenge of proposing one of the occasion of a new composition to be broadcasted in the large 3D clown dome at the Danish Royal Academy of Music in Copenhagen. The hemispherical space with its six vertical levels become a clock that screw from bottom to top in a chronological sense. I decomposed and recomposed 12 minutes of music using model of my main Genesis composition from 1996 to the present, together with field recorded the sounds and fragment of radio broadcast from 1901 and 2020, which I collected for recent sound installation and online project. It's a fragment of 1 minute 48 seconds. Donc voilà, là on est arrivé à la mixité, à la complexité, à potpourri. Donc là on est vers la fin. Stravinsky, Igor Stravinsky, le compositeur, il a écrit en 1917 un opéra tout petit, puisque c'était la période de la guerre, donc l'idée c'était d'avoir peu d'instruments pour pouvoir bouger. Et c'est l'histoire du soldat. Et donc là, les soldats, l'histoire c'est un bref, c'est un soldat qui revient dans la maison, il rencontre un vieux monsieur qui c'est le diable, qui lui propose de prendre le violon c'est l'âme du soldat, et lui donne un livre dans lequel le soldat peut lire le futur, donc peut venir très riche. Il revient dans la maison, il va à son pays trois jours plus tard, ils sont passés 3 ans, donc il ne reconnaît pas, et se rend compte que, bon, il a vendu l'âme au diable et veut la réacheter. Et le final, c'est la marche triomphale du diable, où il y a ce dialogue entre les violons, quelques instruments, et la percussion. Et à la fin, c'est la percussion, donc c'est les bruits, c'est les rythmes, c'est le diable qui complètement couvre la voix du violon, que c'est l'âme du soldat. Thank you. une mélodie toujours plus petite, répétée. J'ai retrouvé quelque chose de très similaire dans une chanson 1983 qui, quand je l'écoutais, m'a rappelé ça, que c'est bon, c'est Let's Dance qui donne le titre. Et là, c'est un fragment où il y a la voix qui chante, il y a la batterie qui mange complètement. Let's dance. Donc, dansons, balançons-nous. Et c'est vraiment hypnotique, obsessif, cette let's dance, qu'à la fin, on ne peut pas danser. Et voilà, donc, balançons-nous. Ça, moi, Entropie Silence. Je viens de terminer un livre d'un géographe anthropologue italien qui s'appelle Matteo Mescari, que je trouve très intéressant. Malheureusement, je crois qu'il n'était pas encore traduit en français. Et là, c'est la photo que je fais de mon livre. Les gens passent, le radar passe un peu moins vite. L'architecture suit les villes, mais les villes coulent aussi. Puis l'espèce disparaît, et ce qui reste sous un soleil rouge qui se couche perpétuellement, ce sont des énormes crabes qui se balancent sans réfléchir vers la nuit entropie. Et puis les silences. Donc on revient à cet balancement de la danse de David Bowie. Voilà. Ça, c'est une phrase que j'ai retrouvée et attribuée à tout le monde, comme je l'aime bien. Il y a des questions ou des choses.
La dernière phrase, c'est vous qui l'ont dit.
La phrase que je lis là,
oui.
Non, ça c'est un livre que je n'ai pas là. Matteo Mescari, c'est un anthropologue géographe italien qui écrit des choses que je trouve très intéressantes. Ouais, je peux parler là, vous pouvez parler de ça. Et donc, il me semblait, il parlait des silences entropie pour finir son livre, donc il me semblait dans le thème.
Density of musical piece. C'est quoi la densité d'une pièce musicale alors?
La densité de?
D'une pièce musicale.
Aucune idée. Non, je veux dire, c'est compliqué. Justement, la question qu'il pose.
Est-ce que c'est l'entropie?
À mon avis, il faut. On pourrait vraiment beaucoup discuter, parce que la densité, d'un point de vue acoustique, bon, évidemment, s'il y a du silence, il n'y a rien de densité. Et s'il y a du white noise, c'est la densité complète. Mais en même temps, quand on peut essayer de suggérer, dans une pièce très léger, très, très presque, très transparent, comme les premiers, on peut avoir une densité psychologique. Et aussi les sons qu'on a écoutés sur les violoncelles, voilà, il y a des sons violents, qui font crrr, et aussi quand on fait des choses comme ça, c'est presque rien d'un point de vue acoustique, mais à mon avis, dans la sensibilité, dans l'écoute de quelqu'un qui écoute un concert, c'est dense, ça. Donc, je n'ai pas de réponse, mais je crois que ça peut être intéressant d'ouvrir un débat, discuter. C'est quoi la densité de la musique? Évidemment, d'un point de vue acoustique, c'est simple. Il y a un son très fort, très, très plein de fréquences, c'est dense. On est sûr que le silence, mais aussi le silence, il y a une pièce, là, ouais, bien connue, pièce de 4 minutes 33 secondes de Cage, c'est une pièce de 4 minutes 33 secondes de silence, à mon avis, une densité énorme.
Oui, parce qu'il y a les limites. Parce qu'il y a les limites. Vous voyez ce que je veux dire, un silence de 4 minutes,
oui.
La durée, peut-être c'est les limites de ce silence. La densité, enfin, c'est ce qui est l'entropie, c'est ce qui désagrège, c'est ce qui réduit quelque chose à l'état de poussière. Et du coup, la densité, ce serait ce qui. C'est le contraire de l'entropie, en fait, la négantropie, quoi, ce qui ferme un intervalle, ce qui crée une limite.
Oui, mais donc, je ne comprends pas. Bien sûr, mais quand il a donné une limite de 4 minutes 33 secondes, la raison pour 4 minutes 33 secondes, c'est très simple, que c'est dans le clavier de la machine à écrire américaine, il y a 4 minutes, et après tu fais le shift, et il y a 33 secondes, je veux dire, c'est les 3 et les 2, alors, comment ça s'appelle, le petit signe de première minute, c'est la shift, c'est les majuscules du 4. Et le deuxième, c'est les majuscules de 3. Donc, évidemment, vous pouvez aussi faire une pièce infinie, mais évidemment, c'est pas jouable. Peut-être que je n'ai pas compris la question.
Non. Je pensais que quand vous disiez 4 minutes 32, c'était complètement arbitraire, juste pour dire que c'était une durée longue. Et du coup, en fait, le pesanteur du silence crée en fait une impression de densité. Je crois que c'était juste ça que vous disiez, en fait.
Ah, donc, alors, la raison de Cage de 4 minutes 33 secondes de silence, c'est pour démontrer que le silence n'existe pas.
Ouais.
Donc, on est obligé à rester silencieux dans un endroit où il y a un pianiste, on est dans un concert, pour se rendre compte que le silence n'existe pas. Donc, c'est un peu ça, le concept. Donc, à mon avis, quand même, c'est du silence qui n'est pas du silence, mais c'est quand même de bruit très faible, mais bon, de prendre une densité, à mon avis, il est très dense, mais là, on peut discuter. Je trouve que, voilà, bon, ce qui m'intéresse d'un point de vue musical, est-ce qu'on donne un meaning, un sens au son qui va au-delà de l'analyse spectrale ou temporelle du son. Voilà, qu'est-ce que... le fait, bon, quand je crie, que bon, Mahler dit dans la symphonie, c'est comme un monde, il doit contenir tout. Mais à mon avis, dans un ting-tong d'une bandoline de Webern, dans cette geste comme ça, quand même, il y a un monde. Donc, c'est un peu comme, on peut dire, c'est un zip, c'est un MP3, je ne sais pas. On réduit l'information, mais quand même, l'information. Les fichiers sont c'est plus léger, mais quand même l'information est très dense. C'est un peu ça que je pense. Après, voilà, c'est une question très ouverte. Et justement, je crois que, à mon avis, pour ce que je sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit ou discuté à propos de la densité en musique. C'est un peu l'occasion. Celui-là, justement, Nicolas Rémy et l'autre, ils ont fait un chapitre, mais ils disent que. par rapport aux autres approches à la densité, il y a moins de, il y a moins de littérature, il y a moins de recherche, il y a moins de choses stables. Donc c'est intéressant, je veux dire, c'est un champ peut encore à découvrir. Mais du tout, il y a des choses qui reviennent, puisque aussi dans les Vivaldi, Jouets Conseils, il y a des bruits d'archers qui sont les mêmes dépressions. Il y a l'écoute de ça, ça. Il y avait aussi dans Mal, quand il jouait les violons dans les très aigus, et forcément, quand tu joues un violon très, très, très piano, et dans les aigus, il y a des bruits. Il y a les bruits de l'archer, donc c'est pas un son pur. Donc il y a tu sens la note et tu sens l'archer, parce qu'évidemment, dans l'origine physique du son, c'est ça. Quand les guitares qui font. J'aime bien ça, tu bouges la main sur la guitare et tu sens. Il y a des pièces qui. Mais bon, il faut pas couper ça, je veux dire. Ce type de bruit-là, ça fait partie du son, c'est la beauté du son. Sinon, ça devient une guitare synthétique complètement banale, si on veut. Et je trouve que c'est intéressant l'approche soundscape, écoute soundscape pour écouter des pièces comme ça. Puisque les pièces tonales classiques, il y a une structure. Linguistique, on peut dire, des langues tellement fort, la tonalité, l'accord dominant, l'accord tonique, quand tu fais la modulation, qu'elle est tellement forte qu'on perd un peu tout ce que c'est les alentours du son qui sont importants. Par contre, quand on écoute des pièces comme Maderna, ou Ligeti, ou Castiglioni, on revient un peu à écouter de la même façon laquelle on écoute la gare, les voix, les bruits de la rue. Donc, à mon avis, il y a des parallèles qui sont intéressants. Peut-être on peut vraiment appliquer les effets sonores à l'écoute des compositions, plutôt des musiques contemporaines que des musiques, entre guillemets, classiques. Et bon, on écoute du Bach, de Beethoven, on écoute aussi de David Bowie. Donc il y a la tonalité, la mélodie, le rythme qui s'imposent. Donc tu écoutes la modulation, tu écoutes la belle mélodie, tu écoutes la voix qui chante bien, la qualité de l'arrangement, et tu perds un peu d'autres choses, des sons. Et donc je trouve que ça, c'est intéressant. Donc une approche... Voilà, les instruments de l'analyse de soundscape qui peuvent être appliés à l'analyse de la musique. Il y a quelqu'un qui le fait peut-être, mais je trouve ça intéressant.
Et c'est quoi pour vous l'avenir de la densité musicale ?
La vie ?
C'est quoi l'avenir ? Merci pour la présentation, déjà c'était trop génial. Ma question c'est... Qu'est-ce que c'est l'avenir de la densité musicale pour vous?
Moi, je suis un peu sourd et je ne comprends pas bien le français. L'avenir.
L'avenir,
le futur.
Le futur de la musique.
Oh, aucune idée. C'est une très bonne question, comme disait Cage. Very good question. C'est une très bonne question, je ne veux pas la détruire avec une réponse. Ottima domanda, non, je distruggerò con la réponse. Je ne sais rien à propos de l'avenir. Bon, c'est à vous. C'est plutôt à vous qu'à moi. Donc voilà, j'espère que c'est à vous. J'espère d'ici à 50 ans de trouver une réponse par vous. Donc, je suis là, vous êtes là qui m'expliquez finalement. On a trouvé. Oui, l'avenir, le futur, je ne sais pas, mais quand même. Et plus la densité, l'intensité. Là, j'ai fait du mélange, on le voit là. Que moi, je suis parti pour faire intensité, mixité. Déjà, mixité, en italien, on ne peut pas le traduire. Je veux dire, qu'est-ce que c'est mixité? Je n'arrive pas, je ne sais pas en anglais, mixité. C'est difficile. Donc, quand je proposais à mes étudiants, ils disaient, mais c'est quoi mixité? Je dis, je ne sais pas.
C'est horrible, comment ?
C'est quoi ?
Homogénéité, ça veut dire tout le même.
Ouais.
Heterogénéité, je ne sais même pas comment dire, en fait, c'est un mot qui est écrit.
Oui, donc mixité. Et intensité, densité. intensité, densité sont dans un certain niveau. Pour la musique, c'est presque pareil. On peut dire qu'un son très intense, c'est un son dense. Puisqu'il y a un grand orchestre qui fait c'est soit intense, soit dense. Mais après, bon, c'est pas aussi banal. Et en même temps, il y avait la density, order and entropy, que j'étais en train de lire le texte. Et bon, voilà. Évidemment, je les mets ensemble. J'essayais de trouver, je croisais avec les titres des choses. Il y a la complexité, il y a l'ordre, il y a le désordre. Il y a l'idée de les silences et le noise, ils sont la même chose d'un point de vue. Donc, noise, que pour moi, c'est le white noise, c'est la densité 100%, le silence, la densité 0%. Mais d'un point de vue anthropique, ils sont la même chose. Donc, je crois, puisque bon, quand même, il n'y a pas d'information. Je veux dire, le fait que le noise, c'est la complexité désordonnée la complexité musicale, il y avait une phrase là que j'ai oublié.
La densité du désordre, c'est le bruit, et voilà. La densité de l'ordre, c'est la complexité.
Voilà, merci. Et ça peut expliquer des choses dans la musique, parce que avoir des pièces complexes, complexity is fragile, la complexité c'est fragile, c'est vrai. Et donc, je ne suis pas spécialiste de l'entropie, mais quand même, je comprends un peu c'est quoi. Et donc, je me mets dans une pièce compliquée, complexe, d'avoir quand même une transparence qui permet de comprendre. Donc, je ne sais pas, de chaotique absolu. Donc, il y a noise music qui utilise le bruit, qui fait que du bruit. Donc, mais dans le bruit, il y a des bruits différents. Il y a les bruits blancs, les bruits roses, les bruits marrons. Donc, on a déjà des sons riches qui ont des couleurs différentes. Et donc, la complexité, j'aime bien l'idée que la complexité, c'est fragile. C'est qu'on pense peut-être que la complexité, c'est solide, mais non, la complexité, c'est fragile. Et d'un point de vue aussi social, je veux dire, un système social complexe qui marche, c'est difficile à gérer. Sinon, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est la révolution. Bon, allez. Donc, ça, je veux dire, je ne dis pas que c'est facile à gérer.
Non, non.
Alteration de
fixity is alteration of fixity.
Ah, ok. Je ne sais pas en anglais mixity, bon, je ne suis pas. En Italie, mixita n'existait pas.
Comment est-ce qu'on parle de mélange dans les écoles? Ici en France, on dit qu'une école est mixte parce qu'elle a des
filles.
Oui, c'est le métissage, c'est le mélange. C'est le medley.
C'est encore de mixité sociale.
C'est le pourquoi.
Les sexes. Les sexes. Dans une école, on dit.
Pas dans l'Est.
On dit une école mixte.
Ouais. Mexico.
Mexico.
Ou Mexité. Ça dépend. Dans l'Est, c'est plutôt de culture.
Mixité is an old world. Like 17th century.
Ah ouais?
Yes.
Il y a la table de mixage, je veux dire.
C'est
quoi la mixité de la table de mixage?
Ouais, c'est ça. Et cette discussion me fait penser à Sophie de John Cage et Roman Herb. Et ça s'appelle Sound.
Non, je ne connais pas. C'est un film.
C'est un film des années 60.
Oui.
Il y a John Cage, David Tudor.
Ah, mais c'est Four American Composers.
Non, c'est
because,
pas ça.
Okay.
C'est John Cage, Vernon Kirk,
okay.
Vernon Russell Kirk, saxophoniste.
Oui.
Et puis David Tudor,
David Tudor.
Musicien poète.
Oui.
Et c'est 20 minutes.
Oui.
C'est un film.
Je ne connais pas.
Tu ne connais pas?
Non.
Peut-être on peut le regarder.
Ouais.
On va finir, toi? C'est ça?
Oui, je crois.
On est à la fin de
la fin. L'école ferme à 8h, si vous voulez.
On peut regarder un film, là.
Ouais.
Allez.
Un petit film.
Allez.
On peut utiliser.
Oui, il faut.
Est-ce que.
22 heures.